avec Gary Constant pour le festival Mauvais Genre 3e édition qui aura lieu pour le week-end de Pâques à Tours, donc à partir du 11 avril. Bonsoir.
Bonsoir l'autre monde, bonsoir les auditeurs.
À partir du 11 avril, mais une petite avant-première en quelque sorte avec le festival Désir Désir en partenariat avec la soirée Bad Girl. Ça s'est passé comment cette idée de partenariat?
Alors l'idée de partenariat est née en fait de Philippe Pérol, donc le directeur du festival Désir Désir, qui m'a approché en me disant bah écoute, c'est vrai que là on va avoir une date qui se chevauche par rapport à votre festival, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse quelque chose en commun? Je lui ai dit bah écoute, banco, on y va. Eux avaient déjà sélectionné trois films, et ils m'ont dit est-ce que ça te convient, ça te correspond par rapport à une thématique Bad Girl, donc spécial mauvais genre. J'ai dit bah oui, tout à fait. Et donc voilà, on va co-présenter la soirée ensemble. Enfin, peut-être même plus que moi, que lui, enfin, on verra bien de toute façon. Puis bah, nous-mêmes, indépendamment de ça, on amènera certainement dans nos cartons quelques petites surprises, c'est-à-dire peut-être une ou deux avant-premières, peut-être deux ou trois courts projetés comme ça, en exclus, qu'on retrouvera évidemment dans le festival, et puis peut-être des choses complètement inédites qui ne passeront peut-être même pas dans le festival, mais uniquement pour cette soirée-là. Donc une soirée qui s'annonce bien. Alors, les trois films très vite faits, trois classiques, Faster Pussycat Kill Kill de Ross Meyer. Évidemment. Ensuite, le deuxième film, Psycho Beach Party, un petit film américain des années de 2000, justement sur un hommage un petit peu à côté un petit peu tout le cinéma psychobilly des années 60 californien, donc avec pas mal de bimbo et cervelet qui crient dans tous les sens, c'est ça ce qu'on aime. Et le dernier film, un grand classique, enfin qui devient un classique même s'il n'a que 2-3 ans, Boulevard de la Mort de Tarantino. Donc voilà, on a l'esprit très Grindhouse. Donc je pense que ça va être une soirée assez exceptionnelle. Et puis ponctuée entre les films, qui aura 3 quarts d'heure, donc possibilité de se restaurer, etc. Intervention des Pumpanet.com, qui sont une troupe de nanas complètement délirantes. C'est une nana actrice qui font des performances assez incroyables. Donc en tout cas, je pense une très très belle soirée en perspective.
Pour retrouver les bandes annonces de tous ces films-là, c'est sur le festival, sur le site du festival Désir Désir, avec des bandes annonces qui sont assez terribles. Sinon, pour rentrer dans le vif du sujet, donc bon, la soirée. Pour le vendredi 10 avril, donc une séance scolaire à Saint-Avertin, et sinon ça commence vraiment samedi, donc 11 avril, avec un débat au Forum Fnac. C'était important de commencer avec un débat, avec un thème le cinéma de genre en France, bilan et perspective.
Alors, je vais rectifier légèrement ce que tu as dit. Oui, c'est-à-dire que nous, dans le cadre proprement du Festival Mauvais Genre, on commence effectivement avec par une conférence. Mais en même temps, préalablement, en fait, de 14h à 16h, place de la Gare, donc en même temps que nous, va se préparer justement, qui commencera à 16h, le fameux parcours zombie, donc par l'association Icare sur les chemins, qui est un rendez-vous d'ailleurs à tout le monde entre 14h et 16h, place de la Gare, pour se faire grimer, etc. Donc nous, effectivement, 14h30, personnellement, on commence effectivement avec donc une rencontre avec différents membres du jury autour de la fameuse question. Le cinéma de genre, bilan et perspective. Donc je pense qu'en fait on aura différentes générations, parce qu'il y aura Jean Rollin, donc précurseur d'un cinéma fantastique dans les années 60 français, très branché par les vampires et les femmes nues, entre autres. On aura donc le président du jury, donc Franck Vestiel, réalisateur d'Eden Log avec Clovis Cornillac récemment, Julien Seri, Samuel Bodin, donc qui lui est du coin. Donc on aura comme ça 2-3 générations pour faire un petit peu le point et voir un petit peu où est-ce qu'on en est en France, parce que vous savez que depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans, il y a pas mal, enfin pas mal, il y a certains films de genre en France qui sortent dans les salles, sont-ils réussis ou pas, ça c'est un débat, on en parlera à ce moment-là. On essaiera de faire un petit peu justement le point, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a vraiment un avenir, est-ce qu'on est vraiment performant là-dedans, enfin bref, toute une série de questions. Et ça sera donc au forum de la FNAC de 14h30 à 16h. Voilà.
16h, départ du parcours zombie. Alors.
Voilà, exactement. 16h, départ du parcours zombie, donc de 16h à 18h. Le parcours sera communiqué ultérieurement, parce que c'est pareil, ils vont flyer, etc. Et puis nous, on les aidera évidemment à ce niveau-là. Grosso modo, ça partira de la place de la Gare, avec 2-3 haltes sur un parcours, qui mènera au Square Soudrion, qui est en fait le jardin de l'Institut de Touraine, c'est-à-dire le jardin, pour ceux qui connaissent, qui est juste à côté du Petit Faucheux. Donc en fait, on terminera à 18h, juste à côté même du Petit Faucheux. Et de 18h à 20h, donc toujours dans le Square Soudrion, la compagnie Icare sur les chemins, il y aura un mix de DJ Kéké, donc il y aura 2-3 animations dans tout le square, avec dégustation de vin, etc. entre autres, donc ça sera très 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 sympa, qui poussera donc jusqu'à après le un quart d'heure avant le début de la cérémonie d'ouverture du festival, qui aura lieu à 20h15 au Petit Faucheux.
20h15, discours et présentation du jury.
Ouais, non, mais discours, ça va être comme d'habitude, je pense, un exercice, ouais, rondement mené, parce que c'est pas, je vais entendre les gens, enfin, moi, parler, je préfère m'attarder présentation des films. Bon, je ferai quelque chose, parce qu'on est obligé de le faire, côté un petit peu officiel, mais vous inquiétez pas, ça sera pas prise de tête, j'essaierai d'être assez succinct, très rapide, comme d'habitude. Après, présentation du jury. Et puis après, bah voilà, ouais, on va rentrer en trois dans le vif du sujet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la soirée, la cérémonie d'ouverture se déroulera comme ça, c'est-à-dire qu'on vous passera deux courts-métrages. Une pause et le premier long métrage donc du festival juste après. Donc les deux courts métrages, c'est-à-dire que le premier court métrage, on commencera par un film français, donc Le Chasseur de rêves de Patrice Gabelin, qui sera projeté en première internationale. Donc à chaque fois, je vais pas dire que c'est toujours une première, etc. Sachez que dans 95% des cas, long métrage comme court métrage, ça c'est évidemment première fois passé en France, voire en Europe pour certains, mais bon, que des inédits pratiquement. Donc Le Chasseur de rêves, donc l'univers graphique, même thématique très très fort. Donc il sera là, lui, Patrice sera là pour présenter son film, donc, comme je l'ai dit, en première internationale. Donc assez SF, assez métaphysique, d'une durée d'une demi-heure. En fait, mine de rien, pourquoi première internationale? Parce qu'il a eu du mal à le refourguer dans d'autres festivals de par la durée même de son film. Et nous, on s'est dit, quand j'ai vu le film, je dis, le film effectivement est bancal. Je dis pas qu'il est parfait, mais il a des grandes qualités. On a voulu le montrer. Donc on s'est dit, on passe ton film. Donc évidemment, il a accepté de venir en parler. Donc il en parlera avec vous. Et juste après, le deuxième court-métrage, ça sera The Painter of Skies, qui est un petit bijou d'animation, alors film d'animation, parce que là aussi l'animation, on est très fan évidemment, un mauvais genre. Donc animation espagnole, où là c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, ça rappelle un peu Cromwell Stone d'Andreas. Il y a un petit peu cet univers-là, je trouve. Donc tout en animation, puis après on fera une pause avant d'attaquer le premier long métrage de la compétition, car cette année, une des nouveautés du festival, c'est d'instaurer une mini compétition de long métrage. Voilà.
Se disappeared.
Ouais.
Tu peux nous en dire un petit quelque chose? Parce que, après un séjour en hôpital psychiatrique suite à une dépression liée à la disparition de son petit frère, Mathieu revient habiter chez son père. Il commence à entendre des voix et à avoir des visions. Jusque-là, bon, une thématique classique.
Ouais, très classique. Honnêtement, ce Dissopir de Johnny Cavoquian, c'est pour moi une des révélations. Je parle en tant que cinéaste, son premier film en tant que réalisateur de long métrage. Je suis même pas sûr d'ailleurs à vérifier, mais je crois pas qu'il ait fait même pas un ou deux courts avant. Il commence vraiment par ce film-là et c'est un coup de maître. C'est-à-dire que pour moi, c'est toute proportion gardée, c'est un petit peu la même baffe, c'est vraiment une baffe. Enfin, en tout cas, je me suis pris une baffe dans la tête. C'est exactement la même sensation que quand je suis sorti de Morse. Pour ceux qui ont vu Morse, film de vampire suédois là, qui est sorti depuis quelques mois en France, un ou deux mois je crois. C'est ça, c'est-à-dire quelque chose de très réaliste, c'est-à-dire que c'est une approche du fantastique. Alors évidemment l'école anglaise, donc on le sait, grande école sociale, on va dire réalisme social. C'est un petit peu, on va dire, le croisement pour décrire ça, c'est un petit peu comme si, voyons, c'est un petit peu comme si Ken Loach se prenait un petit peu pour David Lynch. Je trouve qu'il y a un petit peu ce côté-là. On est plus quand même dans le côté Ken Loach, côté réaliste véritablement. Sociale, parce que c'est vraiment une critique en fait de la société anglaise, la société, on va dire, la working class anglaise, et avec le côté effectivement fantastique où sans de mouvement de caméra super péremptoire, ce genre de choses, c'est une façon de filmer très très simple, il arrive à provoquer pas mal de sensations. C'est pas quelqu'un qui C'est pas un film, voilà, soyons clairs, c'est pas un film qui est censé faire peur au sens même, voilà, film de flip comme a pu l'être Rec. C'est pas du tout ça. C'est un film qui prend son temps, qu'un seul en fait, voilà, un film d'atmosphère, qui fait réfléchir, qui surprend, mais évidemment avec ce climat fantastique, parce que le petit frère donc de Matthew va lui apparaître sous forme évidemment de spectre, d'où l'aspect fantastique. Mais ça critique aussi, c'est un film, je pense, qui critique aussi la religion, enfin pas mal de choses. C'est un film très riche en tout cas, et vraiment pour moi la naissance d'un grand cinéaste, ça suit de très très près. Alors pour l'instant, Johnny est annoncé, il m'a dit que peut-être. J'espère, mais il m'a dit que peut-être qu'il aura un empêchement, j'espère pas. En tout cas, s'il ne peut pas venir, je pense qu'il nous enverra quelque chose, soit une présentation vidéo du film. De toute façon, vous le verrez quand même, que ce soit en chair ou en os ou en vidéo, vous présentez le film, ça, je vous en fais le serment.
Donc en compétition, puisqu'il y a un prix pour le qui sera distribué par le public, un prix mauvais genre, et un prix aussi par le jury. Non, pas prix du jury.
Non, 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 si, 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 non, non, mais là où en fait on a changé, c'est que cette fois-ci c'est trois prix. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association, parce qu'à la base on est une association mauvais genre, on ne remettra pas de prix. Cette année, il y aura donc le prix du jury jeune et le public. Donc trois prix.
Le jury jeune, encore des, enfin encore, des étudiants de Balzac ou autre chose?
Non, complètement autre chose. C'est-à-dire que là, on a vraiment dispatché. Normalement, à l'heure où je te parle, il devrait être cinq. C'est-à-dire, bon, c'est trouvé comme ça, trois filles, trois garçons, deux garçons, pardon. Et apparemment, c'est un mix entre des lycéens et des étudiants, mais des étudiants qui ne sont pas forcément spécialisés cinéma. Il y aura peut-être un ou deux, je ne sais pas. Mais on a voulu créer, si tu veux, une espèce de rassemblement de jury jeunes, où voilà, moi ça m'intéresse pas d'avoir, c'est bien d'en avoir dans le jury, si tu veux, mais je veux pas que des spécialistes. J'ai envie d'avoir un autre regard, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas forcément habitués à savoir décortiquer des films, à se dire, tiens, le caméraman, le réalisateur a posé sa caméra là, tiens, la lumière rigolait comme ça, etc. Non, je préfère vraiment avoir aussi des gens qui réagissent vraiment avec leur trip, avec leur cœur, qui sont pas forcément là en train d'analyser, etc. Donc c'est un petit peu ces deux écoles, c'est-à-dire le côté, l'école professionnelle, et on va dire l'école néophyte total, ça m'intéresse d'avoir un petit peu la confrontation des deux et voir justement comment ils vont, quels films vont-ils primer au final. Ça peut être très intéressant.
Et pour le jury professionnel?
Le jury professionnel, on est content parce que voilà quoi, Franck Vestiel, donc grand réalisateur de seconde équipe, c'est-à-dire qui a bossé avec Kounen, Kassovitz, enfin tous les mecs, on va dire, grand réalisateur français de genre. De ces 10 dernières années-là, il a bossé avec eux. Il est passé à la réalisation, comme je l'ai dit en préambule, donc en signant un film de SF métaphysique, je trouve assez intéressant pour ma part. Donc Eden Log avec Clovis Cornillac. Donc lui, président du jury. Ensuite, il y aura donc François Rollin, le professeur Rollin, c'est-à-dire créateur des Guignols de l'info, Palace avec Jean-Michel Ribes, j'en passe et des meilleurs, qui sera là. Donc on est très content, évidemment. Julien Seri, un ancien de l'écurie Besson, et qui a pour moi en tout cas beaucoup, qui avait donc signé les Yamakasi, enfin en tout cas. Qui est normalement le premier réalisateur d'Hayao Miyazaki, qui s'est fait discréditer au final, son nom en tout cas n'est pas apparu. Enfin bref, pour d'ailleurs, il a intenté un procès à Besson pour ça, et c'est pour ça qu'il a tout mon respect, indépendamment d'être quelqu'un vraiment de très sincère, je pense, d'assez doué. C'est qu'il a gagné, peut-être le seul réalisateur français qui ait gagné son procès contre Luc Besson, et ça fait plaisir en tout cas à voir ça. Et il a signé donc notamment aussi donc Les Fils du Vent, et dernièrement, lui aussi avec Clovis Cornillac, comme quoi Clovis Cornillac est un de ses acteurs, on aurait bien voulu l'avoir, peut-être. Malheureusement non, d'autres fois, on espère. Donc il a signé avec Clovis Scorpion, qui décrivait un petit peu le monde des combats clandestins qu'on peut trouver dans les banlieues et autres. Donc voilà. Une ex-actrice de cul, donc Ovidie. Là aussi, on sait qu'il y a beaucoup de vicieux, de vicenards, qui se frottent les mains allègrement, et qui salivent déjà en se disant « Ah, sera là, sera là, sera là ». Oui, effectivement, Ovidie sera là. Mais que les choses soient claires, Ovidie, c'est quand même quelqu'un, ça ne veut rien dire, mais qui a quand même une maîtrise de philo, enfin, qui est très loin d'être bête, qui est pas uniquement une actrice, on va dire, de films pour adultes, mais qui a écrit aussi des livres, notamment Porno Manifesto, où elle décrit un petit peu ce milieu, qui je trouve qu'elle a une vision assez percutante de ça. Et puis voilà quoi. Donc je pense va falloir vraiment. Et elle a de la répartie, croyez-moi, je l'ai eu au téléphone, elle a de la répartie. Donc messieurs, méfiez-vous. On aura aussi donc une jeune journaliste de France Inter, Aurélie Charron, donc qui apparemment est une jeune journaliste qui promet. Je vous avouerai que je n'ai absolument écouté aucun de ses billets parce qu'apparemment chroniqueuse donc dans une émission culturelle sur France Inter, je crois une émission à partir de 16 h, je ne sais plus trop exactement le titre de l'émission. Mais bon, toujours est-il que c'est apparemment, parce qu'à quoi, elle a 23-24 ans, donc une nouvelle génération de journalistes, ça peut être très intéressant. François Skipacone, qui lui est distributeur de films sur Paris, c'est lui notamment qui a distribué Morse, donc le fameux film de vampire dont je vous ai parlé. Donc voilà, et qui vient donc évidemment pas avec, on va dire, un film sous le bras, bien au contraire, mais peut-être que des deals vont se passer par rapport au reste de la programmation, j'en parle plus. J'ai peut-être moi personnellement un deal avec lui, enfin par rapport à la bannière Mauvais Genre, on va peut-être sortir une collection de DVD, mais bon là c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais bon, toujours est-il qu'il vient de venir pour le business, effectivement pour le plaisir. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions parce que c'est quelqu'un de très aimable et qui lui aussi a de la répartie. Et puis un Tourangeau, parce qu'il en fallait bien un, quoi, comme chaque année, depuis les 2 premières années. Donc c'est Samuel Baudin, qui indépendamment d'être un très grand copain, quelqu'un que j'aime beaucoup, est un des jeunes auteurs, je trouve, en tant que scénariste ou réalisateur de cinéma, comédien aussi de théâtre à l'occasion, avec les Guribans, pour ceux qui connaissent cette troupe de théâtre. Quelqu'un vraiment de très doué, je pense, qui a pas mal de cartes, enfin d'atouts en tout cas à montrer, qui a signé notamment, pour ceux qui s'en souviennent ou qui connaissent, avec Julien Boccherini, Batman, Ashis to Ashis, qui était le fameux film enfin, le fameux film de fan sur Batman, qui avait gagné d'ailleurs le prix du jury l'année dernière au Festival Mauvais Genre. Donc là, il sera là, effectivement, il se frotte les mains pour pouvoir justement juger le travail de ses confrères, dirons-nous. Donc voilà, donc un jury, on va dire un petit peu hétéroclite, où il y a un petit peu de tout, mais en tout cas un jury, je pense, qui détonne assez. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bien représentatif, en tout cas, du film de genre. Ça, c'est clair. Et puis le fait de brasser comme ça avec des gens qu'on n'attendait pas forcément, parce que Ovidie, même si on sait qu'elle a une petite préférence pour tout ce qui est un petit peu obscur, en plus de ses films pour adultes, c'était Orgie en noir, son premier film en tant que réalisatrice, elle a toujours aimé tout ce qui est enfin, musique un peu extrême, etc. Donc Samuel Baudin, bon, voilà, tout le monde le connaît pour l'avoir vu dans tous les festivals de Tours. Et puis le Batman Ashes to Ashes, on en
Non,
prend plein la figure.
en fait, je tiens à dire quand même que Samuel Baudin n'existe que par nous et d'autres. Et voilà, ça quand même que Samuel doit beaucoup à mauvais genre, faut le dire.
Et après, bon bah François Rollin, rien à redire, un grand monsieur à respecter. Et puis bah les autres, donc que ce soit Franck Vestiel ou Julien Seri, forcément quand on voit les films sur lesquels il a bossé, enfin ils ont bossé.
C'est vrai que je veux dire, on peut très bien ne pas aimer les films qu'ils ont faits, auxquels ils ont participé, ça c'est tout à fait normal, mais je pense que c'est des gens qui sont en tout cas très intéressants à voir, parce qu'ils ont un regard en tout cas. Vraiment, ils sont plongés au cœur même du système, donc c'est peut-être pas mal.
Puis surtout, tu représentes, j'allais dire, tout le panel. Tu as des acteurs, des réalisateurs, des distributeurs de films et des critiques. Donc voilà, tout le monde sera là.
Exactement, tout le monde sera là pour cette fête du cinéma de genre, qui est donc le festival Mauvais Genre du 11 au 13 avril. Donc ça c'était la première soirée, voilà. Donc ça c'était la soirée du samedi soir, du samedi 11 avril.
Ça recommence le dimanche à 13h30 avec le film que tout le monde attend. Il y aura un petit truc avant quand même ou non?
Non, justement, et je pense que je vais en faire plaisir à certains, il n'y aura pas cette année de projection. Déjà pour nous l'équipe, ça sera beaucoup plus reposant, il n'y aura pas de projection le matin, on a décidé de bannir ça. Alors le dimanche 12 avril, en fait pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'on l'a pas dit je crois en préambule, ça tombe le week-end de Pâques. C'est-à-dire que le dimanche, normalement vous êtes en famille. Si voilà, mais par contre si vous n'êtes pas en famille, même si vous êtes en famille à la rigueur, vous savez, vous pouvez vite fait avaler pâté de Pâques, vous prenez le chocolat que la grand-mère vous a amené, et vous venez vite à 13h30 voir quoi? Donc le deuxième long métrage en compétition, de cette, en tout cas la première mini-compétition Mauvais Genre donc de cette année, c'est ni plus ni moins en première française, s'il vous plaît, le dernier Shinya Tsukamoto, donc Nightmare Detective 2, le deuxième, on est vachement content de pouvoir le présenter. Donc bon, je sais pas, vous faire l'affront de vous reparler de Tsukamoto, la série des Tetsuo, Gemini et compagnie, quoi, c'est-à-dire le cyberpunk à l'écran, mais pas que ça, justement dernièrement sa carrière évolue, on va dire, vers un cinéma peut-être un peu plus contemplatif, un petit peu moins punk. Comme il avait à ses débuts, et c'est ça pour moi qui fait intéressant, c'est que c'est un cinéaste qui évolue, qui n'est pas figé. En tout cas, son film est vraiment un très 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 joli film. Donc voilà, c'est le Nightmare Detective, c'est-à-dire qu'il a la capacité de rentrer dans les rêves de chacun pour aider ceux qui le désirent à lutter contre les cauchemars. Donc quelque chose de très onirique, très barré, parce que ça reste quand même Tsukamoto, mais très contemplatif, et enfin, voilà, très 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 joli, très poétique.
C'est pas couru d'avance qu'il ait le prix?
Eh bien non, parce que justement, bon, quand je dis mini-compétition, vous allez me dire il n'y a que trois longs métrages. Bah oui, parce qu'on n'est que sur 2 jours et demi, on aimerait bien, si jamais vous venez nombreux, pour nous prouver voilà que c'est un festival qui vous tient à cœur, peut-être que dans les années à venir, on grandira, c'est ce qu'on espère évidemment. Non, je ne pense pas, enfin je ne pense pas. Je pense que les trois films, en tout cas, que ça The Disappear dont on a parlé donc pour la séance de la veille, Nightmare Detective 2 et le prochain dont on parlera juste après, je pense que ces trois films sont complètement différents, avec des univers complètement différents, même si c'est vrai qu'il y a un thème qui se dégage uniquement, pas uniquement à travers ces trois longs métrages-là, mais même au travers de pas mal de courts-métrages à l'enfance. Cette année, d'ailleurs, rien que l'affiche, pour ceux qui l'ont en vue, avec la petite fille comme ça, la Kill Bill, en train de, dans la main gauche, une sucette, dans la droite, un gun. Qui encore fumait avec des trous d'obus tout autour d'elle. On l'a pas fait exprès, ça va être comme ça, parce qu'en fait c'est l'enfance. Il y a pas mal de films qui mettent en scène l'enfance ou qui traitent de ce thème-là. Et je suis pas sûr, pour reprendre ta question, que le Tsukamoto ait automatiquement le prix, parce que c'est Tsukamoto. Je pense que les deux autres films vont lui donner du fil à retordre.
Le viol du vampire, en 1967, film de Jean Rollin. J'allais dire pourquoi celui-là? Tiens, parce qu'il en a quand même fait un paquet, pourquoi le viol du vampire?
Alors, Jean Rollin, ouais, Jean Rollin, c'est notre hommage cette année. Donc la première année, on avait fait un hommage à Jodorowsky. L'année dernière, c'était au cinéma féerique russe, en tout cas cinéma fantastique russe. Et cette année, donc réalisateur Jean Rollin, qui est un cinéaste, je pense encore injustement ou pas trop méconnu, hormis évidemment une petite chapelle de fans, mais je pense que il a pas mal de choses à montrer. Il se situe, c'est un cinéaste, voilà, qui est un des précurseurs, en tout cas dans les années 60, d'un cinéma fantastique véritablement spécifique à la française, et qui a influencé, certains le disent. D'ailleurs, nombre de réalisateurs américains outre-Atlantique, en tout cas aux États-Unis, surtout sur le continent nord-américain, il a un statut culte absolument incroyable. D'ailleurs, la plupart de ses films existent en DVD, dans des collections avec plein de bonus super intéressants. En France, ça commence un petit peu à venir. Il essaie d'auto-éditer lui-même ses films, son propre DVD, sa propre bannière. Voilà. Alors, pourquoi Le Viol du Vampire ? Parce que d'une part, c'est son premier film. Et puis, je pense que c'est vraiment le film qui pose de base, d'emblée, les bases de son cinéma. C'est-à-dire que c'est un groupe de jeunes qui vont, grosso modo, assez classique, se retrouver dans un château, dans une espèce de maison hantée, où en fait réside un étrange châtelain avec 3-4 femelles vampires. Et évidemment, tout ce petit monde va se mélanger allègrement dans un noir et blanc absolument somptueux. Et c'est un film qui, effectivement, donc, parce que Jean Rollin, lui, c'est toujours hommage absolument au sérial, c'est-à-dire tout au cinéma des années 30, feuilleton, etc. Donc, très bis, vraiment, dans l'esprit. Là, on peut pas faire plus bis que ça. Certains diraient même Z. Moi, je préfère dire bis, mais c'est vrai que c'est très fauché, mais il y a une poésie absolument incroyable. C'est très surréaliste. Il y a des petits moments un petit peu, il court ensuite un petit peu à la Tex Avery. Enfin, c'est vraiment, vraiment étonnant. Alors, donc, c'est pour ça, parce que c'est son premier film, et puis c'est surtout que c'est, le film, en fait, donc, date de 67, mais est sorti dans les salles en mai 68, en plein pendant les événements, et a provoqué nombre de réactions. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi quand on abordera ce chapitre-là. Donc, pendant les événements, à tel point d'ailleurs qu'un canard, je sais plus quel canard, avait dit quasiment que, en mai 68, le seul événement qu'il fallait retenir, c'était la sortie en salle du Viol du Vampire. Voilà.
Quand même, fallait oser. Donc, en présence du réalisateur, qui sera un plaisir de nous expliquer, ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est assez abstrait quand même. Il y en a certains qui disent que bon,
tu l'as vu, toi, le film ?
J'ai pas vu celui-ci. Mais toujours un petit peu étrange. Il y a beaucoup de scènes contemplatives. Alors après, ça justifie parfois difficilement de voir des jeunes filles avec des robes en mousseline qui font pas grand-chose. Mais bon, après, c'est toujours son univers, quoi.
Oui, c'est toujours son univers. C'est-à-dire, comme je disais, quelque chose de très poétique. Et lui-même le dit, c'est-à-dire que bon, c'est peut-être un peu vache de dire ça, mais lui, en fait, les acteurs, c'est pas trop son problème. Lui, c'est plus du moins qu'il arrive à retranscrire son univers. C'est-à-dire qu'il faut être honnête, faut être clair, je vais pas vous mentir, je vais pas faire le faux cul. Dans les films de Jean Rollin, et s'il écoute l'émission, j'espère qu'il m'en voudra pas, je pense qu'il est d'accord. Les acteurs jouent de façon assez lamentable. Mais, ça ajoute au charme, justement, du film. Il y a toujours un petit côté un petit peu décalé, etc. Il a jamais pris, rarement en tout cas, les meilleurs acteurs du monde. Parce que c'était pas son propos. Les films de Jean Rollin, c'est vraiment, faut les prendre dans leur globalité. Et si vraiment vous faites l'effort de pénétrer dans ce monde, effectivement très particulier, je pense que vous serez récompensé.
En même temps, en faisant une seule prise à chaque fois, forcément, il y a deux, trois loupés, quoi.
Oui, mais je veux dire, c'est aussi le côté spontané. Comme je dis, je pense que ça contribue tout à fait à l'ambiance qu'il veut instaurer dans ses films.
Et ensuite, 17h30, où est KK Downey ?
Voilà, alors ça, voilà. Donc après, donc troisième et dernier film long-métrage, en tout cas en compétition, cette année, donc on va dire après l'Angleterre, le Japon, là c'est le Canada qui s'y colle, donc avec Whisky qui est donné, de Pat Kelly qui sera présent, donc qui vient du Canada, là qui sera présent pour présenter son film. Alors comme je me dis sur le programme, en fait pour moi c'est, grosso modo vite fait le speech, on va dire c'est deux losers, donc un musicien complètement raté, puis un écrivain apprenti gonzo, on va dire un peu à Hunter Thompson, qui décide de s'associer en montant une arnaque pour devenir célèbre. Manque de peau évidemment, comme vous en doutez, il y a un moment leur plan si laborieusement minutieusement, on va dire, préparé, foire. Et là, le film prend vraiment toute sa saveur. Alors, comme je m'étais, en fait, amuse-bouche, c'est un petit peu la rencontre entre Larry Clark, parce qu'il y a un côté très Larry Clark, parce que c'est des ados, mais pas uniquement ça. C'est-à-dire, il y a un côté un peu camé, un peu, voilà, loser, etc. Donc, la rencontre de Larry Clark et de Melrose Place, parce qu'il y a un côté, je trouve, sitcom absolument incroyable. Et le mélange des deux, croyez-moi, est assez détonnant. Ça donne vraiment une petite comédie assez féroce, assez caustique, et qui vaut vraiment le coup d'œil.
Comédie un petit peu comme la comédie trash que tu nous avais proposée la dernière fois avec cette histoire de cascadeur un peu dans cet esprit-là, des trucs un peu comme ça ou plus justement à la Larry Clark trash glauque.
Non, plus trash, un petit peu glauque, on va dire. En fait, c'est un petit peu des deux parce que bon, non, je vois quel film tu fais allusion l'année dernière. C'est Devil Derby, tout, etc. Oui, tout à fait. Non, il y a des moments de pure comédie et par moments. Il y a des moments où on est un petit peu dans la comédie sentimentale, mais c'est toujours très bien amené. Il y a des gros gags, mais c'est pas non plus les trucs super énormes. Je veux dire, c'est pas les Charles font l'Espagne, faut pas déconner non plus. Même si j'aime beaucoup d'ailleurs par ailleurs les Charles font l'Espagne, fin de la parenthèse. Mais il y a un côté, voilà, c'est-à-dire qu'on passe un petit peu... on est tout le temps dans la farce, un petit peu dans la satire, mais c'est jamais, je trouve, la grosse charge, c'est toujours très nuancé, donc on navigue comme ça un petit peu entre deux eaux, et je trouve que le film, justement, a un côté un petit peu fascinant de par ça.
Ensuite, une petite pause avant d'attaquer la nuit interdite. Tu
Oui,
donnes
oui,
combien de
oui.
temps aux gens pour manger? Une heure, 1 heure et demie?
Ben disons que non, parce qu'en fait, voilà, ça, c'est malheureusement cette année, c'est exceptionnel. C'est à cause de certains problèmes liés au voisinage du Faucheux. On ne pourra pas pousser la nuit interdite comme aussi tard que les autres années. C'est-à-dire que les autres années, c'était 3 h, voire même 4 h du mat. Donc c'est pour ça que là, on l'avance. C'est-à-dire que normalement, les autres années, on commençait la nuit interdite sur les coups de 22 h 30 environ. Là, on l'a avancé à 20 h 30. Donc la nuit interdite, ce qui fait que par rapport à Quéquédonné, dont les gens objectivement ont une bonne heure et quart pour manger. Bon, ça me paraît raisonnable, voire même 1 h 30 si on traîne pas trop. Donc vraiment, et quand je dis vraiment 20 h 30 tapante, parce que c'est tapante, parce que là on a vraiment, c'est-à-dire que grosso modo, ça commencera donc la nuit interdite à 20 h 30 et devrait se terminer aux alentours d'une heure, 1 h 15, je pense, du matin. Mais vraiment 1 h, 1 h 15, c'est plié. C'est-à-dire que limite, le responsable du Faucheux, qui est par ailleurs un ami, mais qui m'a dit je ne te ferai pas de cadeau, si on est encore dans la salle à 1 h 10. Enfin, coupera les plombs, donc on se retrouvera dans le noir total, voilà. Donc c'est évité. Donc c'est vraiment, donc quand je dis 20 h 30 tapante, ça commencera à 20 h 30. Et sachant qu'apparemment, comme ça buzz pas mal, et vous en doutez, enfin pour si vous avez déjà fait la nuit interdite, cette année risque vraiment peut-être plus que les autres années, parce qu'on dit, on va dire à chaque fois, on va dire, ils vendent la marchandise, ouais, mais bon, c'est un petit peu mon rôle. Ça risque d'être vraiment très blindé, donc moi je serai vous. Je viendrai peut-être même déjà dès 20 h moins le quart, 20 h, parce que je pense que peut y avoir, à mon avis, une grosse affluence. Alors, il y aura quatre longs métrages, annoncés en tout cas, quatre courts métrages, deux longs métrages. Sachant que comme on est sympa, on vous rajoutera peut-être un ou deux courts métrages qu'on n'a pas prévus, c'est normal. Ça fait aussi partie du jeu. Et on ne sait pas encore comment trop va s'organiser. Il y aura certainement deux courts métrages, un long métrage, une pause, deux courts métrages, un long métrage. On ne sait pas si on fait deux pauses ou si une seule grande pause de 20-25 minutes, où vous pourrez évidemment aller fumer votre clope, boire, etc. Enfin, ce que vous voulez. Donc voilà, mais en tout cas, donc 20 h 30, début tip top, donc soyez vraiment ponctuels, début de la nuit interdite, je vous dis jusqu'à à peu près 1 h, 1 h 15 du matin. Et c'est exceptionnel, à cause problème de voisinage, mais on espère que les autres années. Enfin, qu'on espère, on le sait, les autres années, on pourra pousser beaucoup plus tard. Mais là, exceptionnellement, ne nous en veuillez pas, voilà.
Nuit interdite, est-ce qu'elle est interdite aux moins de 16 ans?
Oui, tout à fait. Le principe de la nuit, elle est vraiment interdite aux moins de 16 ans parce que, bon, on va faire un petit peu la tournée vite fait. Alors, bon, sur les quatre films, donc en tout cas, les quatre courts-métrages, donc il y a. Alors, les nationalités, vite fait, vous allez avoir donc les États-Unis, la Suède, le Canada, Hong Kong et l'Espagne. Donc, vraiment très éclectique. Leur court métrage, bon, side effect, une étudiante en plein babysitting va perdre peu à peu la notion de réalité. C'est pas mal du tout. Indépendamment que ce soit fait par une femme, qui étonnamment, il n'y a pas tant de réalisatrices que ça, en tout cas même en court métrage qui œuvre dans le genre. Canada, si, mais en tout cas, États-Unis, mine de rien, pas tant que ça, en tout cas, qui ont du talent. Liz Adams en a. Donc voilà, quoi, side effect, c'est assez étonnant avec une chute un petit peu. Pour ceux qui connaissent les EC Comics ou les Contes de la Crypte, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce genre de chute-là, c'est un petit peu ce genre d'histoire-là, on est tout à fait dans cette ambiance-là. The Intruder, donc le film, le court-métrage suédois, donc de Lars Gustafsson, qui normalement devrait être là. Alors ça c'est un de mes préférés, on va dire, de la sélection, parce que c'est complètement barré. D'ailleurs, honnêtement, je vous dirai même pas le résumé, je vous dirai même pas, je vous laisserai même pas, voilà, de vous le pitcher par mes propres mots. Venez, parce que c'est vraiment se posant de cacahuètes. Alive in the Woods de Max Winston, court-métrage d'animation qui dure 3-4 minutes et qui raconte la folle journée d'un fermier américain et sa rencontre avec Dieu. Mais c'est un truc complètement barré. Il y a des petits moments où on a l'impression de se retrouver dans du Burton, un petit peu à la L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais vraiment, enfin bon, c'est assez étonnant. Ouais, petit bijou, vraiment, vraiment petit bijou. Et puis, si vraiment j'avais des quatre, en tout cas, courts-métrages proposés, celui que je vous conseillerais le plus, mais comme vous allez venir vous faire toute la nuit interdite, vous n'aurez pas le choix, c'est vraiment Trivenge. Donc ça, c'est canadien, de Jason Eisner. Et c'est un petit peu, comment dire, voilà, on est proche de Noël, on est même la veille du soir de Noël. Il y a plein de bûcherons complètement patibulaires qui viennent en fait complètement couper, enfin enlever des sapins de leur habitacle naturel pour les vendre sur les marchés évidemment. Sauf que les sapins sont doués de parole, même si on ne les entend pas, sont animés et justement vont se rebeller un petit peu contre cet état de fait on va dire dans une avalanche de gore, de trucs où même à côté honnêtement, c'est vous dire que Braindead de Peter Jackson fait pas le figure. Voilà.
Ah ouais, quand même. Ça risque d'être vraiment sanglant
Voilà.
alors.
Ouais, ça sera très sanglant, enfin ça pose son âme. Voilà, donc ça c'est Trivenge, court-métrage canadien. Et ensuite, donc, les deux longs-métrages, dans le métrage de la mort qui tue, comme on dit, vraiment, non, non, sans hanter, bah il y a déjà Seventh Moon, qui est donc hongkongais, même si c'est réalisé par un Américain, Eduardo Sanchez. Alors vous allez dire, mais Eduardo Sanchez, ça me dit quelque chose. Bah oui, Eduardo Sanchez, c'est un des deux responsables du Blair Witch Project, le plus doué d'ailleurs des deux réalisateurs, qui, contrairement à son acolyte qui a enquillé les directs ou DVD, c'est-à-dire des sorties directement vidéo avec des films absolument lamentables, lui prend son temps. Et là, nous pour Seventh Moon, un pur film de flip, c'est-à-dire que si vous avez, grosso modo, pour faire simple, un couple d'Américains va passer en Chine sa lune de miel pendant la fête des fantômes, alors quelle idée vous allez me dire. Mais c'est vraiment, on va dire, en termes de flip, j'ai ressenti des émotions que j'avais ressenties quand j'ai maté Rec. Il y a des petits moments, vraiment par moments, il y a un peu cette ambiance-là. Pas forcément la façon de filmer, même si c'est quand même très caméra à l'épaule. Il y a une façon de filmer assez heurtée. Mais il y a un petit peu cette ambiance-là, et notamment la dernière demi-heure, où pourtant Dieu sait que je suis habitué, je me suis surpris quand même à me dire, ouh là là, je ne suis pas forcément très rassuré, c'est rare. Et non, non, vraiment, vraiment le film de flip, je pense, de l'ensemble du festival. Je parle en terreur, horreur pure. Enfin, ouais, vraiment film de flip, c'est Seventh Moon. Voilà, donc ça c'est le premier long métrage. Et on... Oui.
Pourquoi Hongkongais?
Bah écoute, pourquoi Hongkongais, je vous raconterai ça un petit peu. Là, ce serait un... enfin, c'est un petit peu long, simplement que voilà, il avait décidé donc, comme le script disait effectivement qu'un couple de jeunes Américains voulait créer le décalage entre prendre deux acteurs véritablement américains, même s'il y en a un qui est japano-américain, et les plonger, on va dire. Aller tourner en Chine vraiment pour faire un côté complètement réaliste pendant vraiment, parce qu'en fait il est allé filmer vraiment pendant la vraie fête des fantômes. Faut le savoir, donc c'est pour ça qu'il y a des passages où on voit vraiment le public, etc. Il y a un côté très documentaire qui dure pas très longtemps, mais il y a un petit côté documentaire. Donc voilà, donc lui c'était vraiment sa volonté d'aller. Et puis comme évidemment en Chine continentale, c'est toujours très problématique de pouvoir tourner, Hong Kong était un très bon compromis. Puis Hong Kong, faut dire que la main-d'œuvre là-bas, ils sont très bons techniciens. Et on va dire assez donné, n'est pas très cher. Donc il s'est dit banco, je vais là-bas. Donc voilà pourquoi Hong Kong. Et plutôt que de faire un film américain, essayer de reconstituer une Chine studio ou quoi que ce soit, parce que d'une part il n'a pas eu beaucoup de budget. Et quand vous voyez le film, on peut se dire oui effectivement il n'a pas eu l'air d'avoir beaucoup de budget, mais c'est quelqu'un voilà qui sait gérer l'argent qu'il a réussi à récolter et de façon fortement efficace.
Et le film espagnol, parce que un film espagnol, c'est toujours le film.
Voilà, exactement. C'est vrai que l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, La Nuit Interdite, on avait passé Docteur Inferno, qui a marqué en tout cas aussi les esprits de pas mal. Et cette année, on remet le couvert, parce que l'Espagne, depuis quand même 4-5 ans, a vraiment le vent en poupe au niveau cinéma de genre. Moi, je le dis, et je le pense, au niveau européen, avec les Anglais, en ce moment, vraiment les deux pays qui m'étonnent le plus, qui me sidèrent le plus en termes de cinéma de genre, c'est l'Angleterre et l'Espagne. Et donc là, c'est l'Espagne, la Res del Mal, donc d'Adrián Cardona, qui est, alors le pitch, voilà, c'est au Moyen-Âge, un village est attaqué par des démons arbres, mais un bûcheron intervient. Donc rien que le pitch, effectivement, ne peut même pas, à la gueule, vous donner l'ampleur de ce que c'est. C'est-à-dire que la Res del Mal, bon, faut être honnête, il y a premier quart d'heure, 20 minutes, ça prend vraiment son temps. C'est-à-dire qu'il faut pas être découragé, faut dire, oh, il se passe rien, etc., même s'il y a une scène d'ouverture qui est pas mal du tout, il se passe effectivement quelque chose. Et c'est un film qui m'a complètement sidéré, parce que c'est peut-être, dans l'ensemble des longs métrages que l'on passe, en tout cas dans le festival, peut-être le plus fauché, mais il y a des créatures vraiment d'un design absolument incroyable. Les effets, etc., sont absolument sidérants. Il y a des petits plans, par moments, on a l'impression de se retrouver, mais toute proportion gardée, des petits plans très colorés, un peu à la Sin City. On se dit, qu'est-ce que ça vient foutre là? Les acteurs, là aussi, sont tous lamentables. Les nanas, par contre, crient très bien. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Et vraiment, c'est vraiment pour public très averti. Parce qu'il y a des moments, ça se barre dans des délires, soit au niveau scénaristique, ou ce qu'on vous montre à l'écran. Il faut dire, ouais, respect. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, respect, le film, on est obligé de le passer. Ça va être, je pense, un très grand moment. Et c'est tout à fait le genre de film, je pense, interactif. C'est-à-dire que le public, faut pas hésiter à se déchaîner dans certaines scènes. C'est fait pour. Mais je pense que vous allez être très surpris, parce que vous attendez absolument pas à voir ça. Il faut le voir pour le croire. Après avoir vu la Res del Mal, à moins que ça soit fait pendant la projection, vous pourrez vraiment mourir tranquille, vous aurez tout vu.
Une nuit interdite autant couleur, du coup, ça a été difficile de sélectionner pour la nuit interdite?
C'est toujours difficile de se dire, essayer de proposer la meilleure qualité possible, parce que ça, en tout cas, c'est quelque chose pendant le festival pour lequel on se bat. Donc oui, bien sûr, c'était difficile. Cette année, en plus, on l'a reçu, peut-être parce que c'est la troisième, alors c'est un peu plus de films que d'habitude. Et voilà, donc oui, la sélection est toujours effectivement difficile. Il y a aussi, si j'aurais pu passer d'autres films, si le festival avait duré un peu plus longtemps, j'avais deux, trois autres perles, malheureusement, ce n'était pas possible. Il a voulu faire un choix, ça s'arrêtait là-dessus, mais en tout cas, j'assume, on assume en tout cas entièrement la sélection. Mais oui, c'est jamais évidemment chose facile. Des fois, effectivement, faut choisir. C'est vrai que moi, je suis plutôt quelqu'un Quand on me dit fromage ou dessert, pour moi, non, c'est pas fromage ou dessert, c'est fromage et dessert. C'est mon côté gourmand. Et le problème, quand on fait la programmation de mauvais genre, c'est un petit peu ça. C'est toujours difficile de dire fromage ou dessert. On essaye de proposer fromage et dessert. Donc, on essaye dans la plupart des cas de le proposer. Mais oui, c'est pas un exercice facile, mais il y a un côté excitant, quoi. Peut-être aussi qu'on s'est planté, je dis pas le contraire. Peut-être que certains films seront très mal, et c'est aussi le jeu, reçu par le public. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très subjectif. Bon, après, nous, on fait vraiment ces œuvres de découverte. Voilà, on prend ou on prend pas, c'est à chacun de voir. Mais ce qui est bien, c'est que ne serait-ce que pour les interdits, tout après, moi, le but, c'est après chaque séance. C'est que les gens en parlent entre eux, ça c'est bien aussi, j'aime ça. Je sais que moi je me souviens de la première Nuit Interdite qu'on avait fait donc en 2007 pour la première édition, où on était au conservatoire, ou pour la Nuit Interdite, à la pause, ou deux pauses, je sais plus combien de pauses on avait fait, bref, les gens se réunissent en groupe, et je sais que c'est ah ouais, alors le film, il commençait à reparler du film, et ça fait plaisir d'entendre ça, quoi, d'entendre les gens qui voilà, vont, parce qu'indépendamment que vous, le public, évidemment, serez amené à voter, c'est toujours sympa, je veux dire, d'entendre des réactions, ou même de venir nous voir en disant merci d'avoir passé ce film-là, ou alors monsieur, vous êtes grotesque, taisez-vous, c'est honteux de nous avoir proposé ça. Voilà, mais c'est pas grave, on assume, donc c'est toujours intéressant, justement, quand je dis nous, on essaye, voilà, mauvais genre, c'est avant tout, on essaye d'être le plus convivial possible, le plus populaire au bon sens du terme possible, et de vous proposer le plus de choses qui nous paraissent de qualité, mais là encore, c'est toujours subjectif, peut-être qu'on se plante, peut-être qu'on n'est pas du tout dans la bonne ligne de mire, mais ça fait partie du jeu, c'est un risque, c'est un pari, mais quand je vois les retours que j'ai eu depuis les deux premières années, il y a des choses qui ont plu, des choses qui ont moins plu, mais bon, je pense que le public qui est là, et en tout cas, je vous donne rendez-vous, si vous, en tout cas, vous, personnellement, n'êtes jamais venu, venez, je pense que vous n'allez pas le regretter, en tout cas, on fera tout pour que vous ne le regrettiez pas.
Vous avez d'autant moins d'excuses de ne pas venir que le lendemain, le lundi, c'est férié. Tout le monde sera frais et dispo dès 13h30 pour la compétition de court-métrage.
Donc en fait, soyons clairs, le dimanche, si vous n'êtes pas venu, parce que c'est possible, parce que vraiment il y a la famille qui vous prend la tête le dimanche, la veille, etc. Bon, le dimanche, vous avez tous trucidé, donc le 13, même si c'est férié, et que vous deviez terminer le paquet de Pâques avec eux, vous en foutez, parce que d'une part, le paquet de Pâques, vous avez tout mangé, et la famille, vous l'avez zigouillé. Donc vous pouvez venir le lundi 13 avril. Donc à partir de 13h30, la compétition court-métrage, donc une douzaine de courts-métrages, un petit peu de tout pays, avec deux représentants français. Donc je sais pas, est-ce que faut vraiment parce qu'il y en a 12, je peux pas forcément vous dire tous les titres, sachez simplement que là, cette fois-ci, il n'y a qu'une seule compétition de court-métrage, c'est-à-dire qu'on a réuni les fictions et les animations dans une seule et même compétition, contrairement aux autres années où on avait deux compétitions, deux courts-métrages, une de fiction, une d'animation. Cette année, on a réuni les deux, animation et fiction, dans une seule compétition de court-métrage, où il y aura à peu près pour 2 heures, et quelques réalisateurs seront là. Donc il y aura un petit peu de tout, il y aura du fantastique, de la comédie, donc de l'animation évidemment, je l'ai dit, de l'expérimental, enfin bon, il y aura vraiment de tout, quoi. Vraiment, compétition de court-métrage, je pense, assez riche, en tout cas, on est très content de la prog.
12 courts-métrages, ça fait une projection jusqu'à quelle heure à peu près?
Ben voilà, je pense qu'on a calculé, bon, sachant qu'il y aura deux intervenants, je pense qu'on en a, puis des questions éventuellement si vous voulez poser des questions, je pense qu'on en a, en termes de films purs, on en a je pense pour 1 heure 3 quarts de films, d'une heure, une bonne heure et demie facile. Après, ça peut déborder et tout, donc faut compter à mon avis de bonnes heures en tout, quoi.
Avec encore une sélection internationale toujours très important.
Parce que là, donc je vous dis, on a français, Canada encore, Japon, Espagne. Espagne, pas mal. On a deux représentants en Espagne où ça va taper, je pense, pas mal du tout. On a la Corée du Sud évidemment, Corée du Nord. Je vous explique pas trop la situation. C'est un petit peu difficile d'avoir des films, mais on ne désespère pas. Belge, la Belgique, les États-Unis. Donc voilà, donc encore effectivement une compète internationale.
Et donc, pour se remettre de nos émotions, ou pour en avoir d'autres d'ailleurs, La Nuit des Horloges, donc le dernier film cette fois de Jean Rollin.
Oui, le dernier film en date en tout cas de Jean Rollin, donc effectivement encore là, donc on poursuit son hommage avec ce deuxième film aussi, avec Ovidie, qui on espère le 13 sera toujours parmi nous, parce que bon, comme c'est quelqu'un qui a un emploi du temps assez chargé, on espère qu'elle sera là, surtout qu'en plus évidemment elle joue dedans, donc ça serait l'idéal. Bon voilà, on espère, on va tout faire pour, quoi. Donc on verra bien. Donc voilà, donc c'est là par contre c'est peut-être un des films les plus poétiques et érotiques. Quand je dis érotique, c'est vraiment ce que tout le monde dit, ouais, il n'y a pas assez de cul, tout le monde, il n'y a pas assez d'érotisme les autres années, c'était ça un petit peu ce que j'entendais, en tout cas certains demandaient ça. Ben là je pense que vous allez être servis. Parce que c'est un petit peu une déambulation, c'est Isabelle, donc jouée par Ovidie, qui hérite de la maison de son oncle, qui va se retrouver plongée dans ses fantasmes à elle, et aussi à son oncle. Et ouais, je trouve ça assez sidérant, effectivement, indépendamment qu'Ovidie se balade quasiment à poil pendant l'ensemble du métrage, vous allez me dire, ouais, enfin rien que ça. Non, non, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment un climat particulier, une ambiance particulière qui, je pense, risque de rassembler pas mal de monde, en tout cas je l'espère. Donc voilà, ça c'est la nuit des horloges. Et puis, donc, un ciné-concert, puisque chaque année on se bat pour avoir un ciné-concert, donc à 18h10, ce sera cette fois-ci un ciné-concert consacré à Todd Browning, vous savez, le metteur en scène complètement sidérant de Freaks, la monstrueuse parade, entre autres, les poupées du diable, j'en passais des meilleurs. Bref, en tout cas, pour moi, un de mes cinéastes préférés, un des plus grands réalisateurs du monde. Donc un film muet, donc The Unknown, l'inconnu en français, datant de 1927, avec Lon Chaney. Là aussi, grand personnage, et pour ceux qui connaissent, Joan Crawford, qui la débute vraiment, et qui sera plus tard une des plus grandes actrices hollywoodiennes classiques, qui aura tourné avec Curtis et compagnie, enfin tous les grands. Et là, on va dire que c'est un ciné-concert interprété par Benoît Bardel et sa formation, donc c'est-à-dire guitare, piano, violon, batterie, trompette, dans une ambiance, on va dire, très tzigane, parce que l'inconnu se passe dans un cirque, donc il y a un côté très cirque dedans, donc à Madrid, dans un cirque itinérant, Alonso, manchot, cambrioleur et lanceur de couteau, ça fait beaucoup, est amoureux fou de sa partenaire, la belle Estrellita, qui comble pour lui, ou hélas, dommage pour lui, aime un autre artiste. Et furieux, il va ordir un plan pour se débarrasser de son rival. Donc oui, c'est complètement hallucinant parce qu'il y a des séquences, voilà, c'est-à-dire qu'on voit Lon Chaney qui joue par exemple de la guitare uniquement avec ses pieds, il joue véritablement de la guitare avec ses pieds, enfin c'est complètement délirant. Puis il y a toujours effectivement aussi l'intérêt d'un cinéaste comme Todd Browning, le fameux thème de la différence. En quoi être différent, ça peut poser des soucis, etc. Et c'est vraiment, non, c'est vraiment un film que je vous conseille, qui est très court, c'est-à-dire que le film dure à peine 50-55 minutes. Mais comme vous aurez payé un certain prix, qui est de 6 euros, donc c'est modique pour le ciné-concert, nous, comme on n'est pas des chacals, ce qu'on a prévu, c'est-à-dire que vous aurez 20-25 minutes de justement concert avec des vrais guitaristes, Manu Zigan, des mecs qui vont jongler, etc. Vraiment ambiance cirque. Donc on est en train de préparer ça, différentes petites animations pour faire un espèce de package complet, où il n'y aurait pas que le film, mais il y aura, on va dire, un avant-film très branché cirque. Mais en tout cas, sachant que Benoît, donc Mardel et les musiciens pour vous, là, spectateurs de mauvais genre, on peut dire que c'est une première mondiale puisque ce sera vraiment la première fois que leur partition sera jouée en public. Donc surtout, venez vraiment très nombreux parce que là aussi, c'est pareil, une fois de plus, je pense que vous n'allez pas le regretter.
Puis un ciné-concert, c'est toujours un instant unique, c'est toujours que ce soit d'ailleurs avec un orchestre au complet, j'allais dire, pas un orchestre philharmonique, mais au moins avec une grosse formation, avec chanteur, etc., ou juste le piano, c'est toujours un instant inoubliable. Et The Unknown, un film poignant en plus, parce que l'histoire d'amour,
Tu l'as vu,
je
toi?
l'ai vu,
Ah,
ouais.
tu l'as dit, ouais.
Donc,
Adapte pas avec cet accompagnement
non, non.
musical-là.
Mais l'histoire d'amour, le jeu qui est vraiment passionnant, avec l'intrigue par-dessus, et le plan qu'il met en place, et la fin qui est waouh, ah, ça peut être qu'un moment extraordinaire, quoi. Comment ça s'est fait la sélection de ces musiciens-là?
Bah en fait, Benoît est celui. En fait, c'est le même organisateur. Benoît, au niveau en tout cas des musiciens, donc lui-même, grand pianiste. C'est lui l'année dernière qui avait déjà fait le ciné-concert sur Aelita, le premier film de science-fiction russe. Et cette année, comme en fait on accroche vraiment très bien, enfin, c'est un très bon ami, il me dit, bah écoute, moi ça m'intéresse de recommencer. Et je dis, bah, est-ce que tu as des films comme ça en tête? Alors au début, honnêtement, on était parti, enfin moi j'étais parti sur, pareil, un autre film complètement sidérant de Paul Leni, L'homme qui rit, adapté de Victor Hugo, un film muet allemand, très expressionniste et tout. Puis il m'a dit, ouais, le film est pas mal, mais j'avais pas ça en tête, parce que lui partait d'abord, au début, sur un truc plus électro. Et il m'a dit, électro, ça marche pas sur ce film. Et je lui dis, tu as raison. Et après, je lui dis, tiens, The Unknown, t'en penses quoi? Pas forcément électro, mais il m'a dit, ah, l'ambiance cirque, ça, j'aime ça. Donc voilà, bingo, ouais, les Unknown, on le fait. Donc du coup, il est parti sur un truc manouche, un peu cirque manouche, etc. Sachant que dans les années à venir, il fera, parce que c'est un projet qui lui tient à cœur, on arrivera à faire un ciné-concert électro, et croyez-moi, on est déjà en train de plancher dessus, là aussi je pense que ça fera parler, mais chaque chose en son temps. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, et lui était à charge de recruter, comme chaque année, les musiciens. Et voilà, il a un carnet d'adresses assez conséquent, et il est tout à fait apte à recruter de très bons musiciens, mais de toute façon, on lui fait une confiance aveugle. À chaque fois qu'il nous a ramené du monde, de toute façon, c'était des gens très pros, très carrés, très sympas, qui voilà, prennent un plaisir évident à jouer sur le film et qui prennent aussi surtout un plaisir immense à vous proposer leurs quelques talents à vous public.
Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, la cérémonie de clôture à
Eh
partir de
oui,
20h30.
déjà, voilà, c'est vrai que ça passe, c'est effectivement le genre de week-end qui passe très vite, mais bon. Oui, donc 20h30, ça va être clôture, évidemment, avec l'annonce du palmarès, donc c'est-à-dire recevront le prix du jury jeune et le prix du public, c'est-à-dire le meilleur long-métrage et le meilleur court-métrage. Donc, s'y récompenseront tout. Et ensuite, donc, deux courts-métrages. On verra demain d'Abdeselem Younes, un jeune réalisateur, 4-5 minutes, dans une ambiance fin du monde. Court-métrage assez étonnant, quoi. C'est incroyable. Fait vraiment, alors, vraiment, trois fois rien. Mais qui a quelque chose, qui est un petit peu, on va dire, une mise en garde. Côté un petit peu tendance écolo, mais pas écolo, je veux dire gonflant, avec des plans justement de chiens crevés en gros plans comme ça qui sont un petit peu. Alors moi je me suis retrouvé un petit peu chien andalou de Buñuel, mais simplement sur deux trois plans comme ça. C'est-à-dire côté comme ça, tu dis mais qu'est-ce que vient foutre ce plan dans le reste du long métrage, c'est assez étonnant. Et puis après, donc en première européenne, même première internationale, parce que j'ai eu la distributrice, de Corée, Love is Protein, donc court-métrage d'animation. Parce qu'on verra demain de la fiction, Love is Protein et de l'animation. Et c'est un petit bijou, quoi. C'est-à-dire que c'est trois collègues de bureau, donc coréens, qui commandent un poulet frit. Et c'est le père de l'animal, donc un poulet, lui-même, qui va venir les livrer. Et ça se barre dans un truc, justement, entre le rapprochement des peuples. Parce que ce soit long métrage, court métrage, tout ce qui vient de Corée, il y a toujours une signification, soit politique, sociale. Et c'est toujours ça qui est très intéressant. Puis une technique d'animation, là aussi, fait avec très peu de moyens, mais qui est absolument bluffant. Donc en tout cas, Love is Protein, je vous le conseille. Pour ceux ou celles que ça intéresse, c'est sorti en manga, en one-shot, il y a de ça quelques années. Malheureusement, je crois plus édité, où ça reprend en fait, voilà, parce qu'à la base, c'est un manga, et là, c'est l'adaptation vraiment en manga. Là, franchement, j'ai plus du tout le nom de l'auteur en tête, mais c'était peut-être sorti dans les premiers canas, pour ceux qui connaissent, enfin, moi, vérifier. Mais en tout cas, Love is Protein, voilà, un petit bijou, un de plus. Et puis, le film de clôture, donc évidemment hors compétition, donc le dernier long-métrage de la troisième édition du festival Mauvais Genre, Home Movie, de Christopher Dunham, États-Unis. Alors là, justement, franchement, vous me diriez, bon, Gary, ok, arrête tes conneries, tu nous conseilles quoi concrètement? Bah, évidemment, je vous dirais, faut tout voir, mais c'est vrai que, je devrais pas dire ça. Mais Home Movie, quelque chose qui m'a sidéré, parce que, il y a un côté très documentaire, un côté un peu filmé à la rec, parce que c'est, en fait, quelqu'un, un pasteur, donc qui parce que sa femme en fait est psychologue, donc ils ont acheté une caméra, ils décident de filmer leurs enfants, ils vont se rendre compte que leurs enfants, et se filmer si eux-mêmes, quoi, leur vie de famille, mais ils vont se rendre compte que leurs enfants commencent à adopter des comportements absolument antisociaux et de plus en plus violents. Et en fait, c'est l'explosion d'une famille, ni plus ni moins, qui nous est montrée avec Home Movie. Alors dans le rôle titre, on a notamment Adrien Pasdar, bon, pour ceux qui connaissent, c'est Heroes, et puis surtout pour vous les plus jeunes, c'est Heroes, mais pour nous les plus anciens, je pense qu'il y en a aussi qui écoutent, c'est surtout pour ceux qui l'ont vu, Jim Profit, dans la série du même nom, Profit, où il faisait un arriviste anglais, homme d'affaires absolument implacable. Donc bref, Adrien Pasdar, c'est celui qui fait le sénateur dans la série Heroes, je ne sais pas si vous voulez voir, pour visualiser un petit peu le physique. Et c'est absolument sidérant, parce qu'il y a un côté très violent, un petit peu à la Haneke, Michael Haneke, dans le côté très dérangeant, et avec effectivement deux gamins qui font vraiment flipper en ne faisant trois fois rien. Et là c'est pareil, c'est un petit peu comme je disais avec je ne sais plus quel autre film, c'est pas de la flip pure, ouais, c'est comme The Disappear. C'est-à-dire c'est pas un film de flip dans le sens où on l'entend, mais c'est un film qui peut mettre mal à l'aise, qui est plutôt de la terreur psychologique, parce qu'on assiste vraiment à l'explosion de cette famille petit à petit, on rentre vraiment au cœur même de cette famille. Et puis bah, tout se désagrège jusqu'à la fin, qui honnêtement risque de vous laisser pantois. C'est vraiment un movie, vraiment un excellent film pour clôturer, rien de tel. Donc pour clôturer la troisième édition du festival. Donc en tout cas, venez très 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 nombreux à cette édition, parce que si vous venez nombreux, ça veut dire d'une part bah, que ça vous intéresse évidemment, que nous on fait pas ça non plus pour rien. Et puis voilà quoi, et puis peut-être que grâce à vous, parce que c'est pas uniquement à nous, vous allez dire, ouais, si vous faites des recettes, etc., vous rentrez dans vos frais, vous pouvez dire, vous en refaites une. Ben moi, je vais vous dire quelque chose, c'est vrai en partie, mais objectivement, c'est pas uniquement, je suis honnête en disant ça, si vous venez très nombreux, nous, ça nous motivera encore plus à vouloir continuer, parce qu'honnêtement, avant vous, ce festival Mauvais Genre, c'est pour vous, cher public. Et voilà, donc si vous venez nombreux, ben, ça prouvera effectivement qu'on fait des programmations qui vous intéressent, et on pourra peut-être continuer grâce à vous, parce que le festival, honnêtement, n'existe quelque part que grâce à vous. Voilà.
Une after au Joulin.
Non, non.
Une after, alors non, où ça?
Justement, parce qu'on l'a pas fait. Il y aura une after au Joulin, donc ouvert évidemment au public. Donc là, ça sera le samedi soir, donc le 11 avril, donc après la cérémonie d'ouverture, le samedi 11 avril. Il y aura un after, donc au Joulin, où la Kéké, DJ Kéké mixera justement. Donc venez aussi nombreux, ça pourra être sympa. Puis ça pourra aussi l'autre l'occasion d'approcher le jury, si tant est que c'est pas fait. Même si je vous dis, après, ils sont très accessibles au niveau du bar et tout, n'hésitez pas à venir leur parler, parce qu'ils sont demandeurs de ça. Ne faites pas les timides, mais au contraire. Et donc, pour la cérémonie de clôture, le lundi 13 avril, l'after se fera au Donald's Pub. D'accord. Voilà, donc là c'est pareil aussi, que tous ceux qui nous aiment nous suivent. Voilà, donc rendez-vous à l'after au Donald's Pub à partir à peu près de 23h, 23h15. Je sais que le lendemain ça rattaque parce que c'est plus férié le mardi, on rattaque tous. Mais bon, à la rigueur, attaquer, enfin aller au boulot avec 3 grammes dans la gueule, c'est toujours agréable.
Tu dois pas avoir un travail très très ou ce qui demande beaucoup d'attention alors
Parce que, pourquoi? Parce
parce que quand
que.
même déjà pour survivre à 3 grammes.
Non, bah quand je dis 3 grammes, un petit, on se comprend, un petit coup dans le nez, je veux dire, voilà. Non, après, il y en a certains, c'est 3 grammes, donc c'est beaucoup moins, non, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir, enfin, d'aller, bref, pour synthétiser, d'aller au boulot avec la tête dans le cul. Moi, ça m'a toujours fait amuser personnellement, mais je suis peut-être, comme je suis déjà très mauvais genre, l'êtes-vous vous-même, bah, venez nombreux pour me le prouver, en tout cas, enfin, pour nous le prouver.
Pour pouvoir réserver éventuellement ces places. Alors comment ça va
Oui.
marcher? Parce que il y a un pass, mais qui est super super limité.
Ouais, on va super super limité pour l'instant, je vous avouerai, ça commence un petit peu à partir. Alors bon, au niveau des tarifs, c'est les mêmes que l'année dernière. C'est-à-dire que la cérémonie d'ouverture, en fait, toutes les séances sont à 4 euros pièce, sauf deux séances particulières, c'est-à-dire la nuit interdite, qui est à 7 euros, et le ciné-concert qui est à 6 euros. Voilà. Sinon, toutes les autres séances, c'est-à-dire les séances normales, même les cérémonies d'ouverture, de clôture, tout est à 4 euros pièce. Et effectivement, l'existence d'un pass festival de 20 euros, donc là, vous pouvez faire toutes les séances, et par rapport, parce que qu'en fait, le pass, pourquoi c'est important? Bah, d'une part, évidemment, ça peut, vous avez accès à toutes les séances, et surtout, vous êtes prioritaire, parce que nous, comme nous ne faisons pas, au niveau des places, séances simples ou spéciales, de pré-vente, c'est vraiment les premiers arrivés, les premiers servis. Mais si vous avez un pass, vous rentrerez en priorité. Donc vous êtes sûr au moins, s'il y a une séance qui vous intéresse en prenant le pass, d'avoir de la place, automatiquement. Si après vous jouez le jeu de se dire, grosso modo, c'est les premiers arrivés, premiers servis. C'est-à-dire que si vous jouez le jeu, vous pouvez aussi vous attendre, enfin, on l'espère, c'est peut-être effectivement un peu prétentieux de notre part, mais bah, que certaines séances se jouent à guichet fermé, et que quand vous arriviez, bah, c'est trop tard, il n'y a plus de place et vous ne pouviez pas rentrer. Ce serait peut-être un petit peu dommage. Donc ouais, quantité limitée à 35, en fait, on va jusqu'à 40 passes, donc passes à l'unité de 20 euros, qui sont à retirer à la librairie Ferries. Donc rue du Commerce à Tours, donc Ferries, librairie un petit peu under, enfin un petit peu, qui juxtapose la librairie Guimel, donc une librairie ésotérique, et Ferries, bah, la librairie où tous les fanats de comics tenus par Steph. D'ailleurs Steph, un petit coucou, même si t'écoutes pas, t'es qu'un sale con, t'écoutes pas l'émission, tu devrais, enfin avec Xavier on va venir, on va te péter la tête. Donc voilà. Voilà, donc Ferries, voilà, donc à retirer quand vous voulez, quoi, voilà.
Sinon, donc tout se passera au petit faucheux.
Ouais, volonté aussi de tout cette fois-ci, plutôt que les deux autres années, c'était un petit peu borderline, mais malheureusement, on n'arrivait pas à trouver d'endroit où on pouvait faire les 3 jours à la suite, parce que pour l'instant, le festival n'excédait que 3 jours. Donc là, tout au petit faucheux, 12 rue Léonard de Vinci, 37 000 tours, donc le petit faucheux, grande salle de jazz, qui effectivement n'est pas une salle à la base de cinéma, de projection, mais qu'on peut tout à fait transformer en tout cas en salle de projection, c'est ce qu'on avait déjà fait en partie l'année dernière. Donc voilà, donc là, tout a lieu au petit faucheux. Donc voilà, vous ne serez pas obligé de galoper aux quatre coins de la ville, etc. Donc cette fois-ci, tout est centralisé en un seul et même endroit.
Pour retrouver toute la programmation, pour retrouver toute la programmation et notamment surtout, j'allais dire même, et pour retrouver surtout la bande-annonce,
Alors.
le site du festival.
Ouais, c'est-à-dire que vous êtes non seulement vous allez avoir la bande-annonce du festival et vous aurez la bande-annonce sur le site internet, donc www, alors tout au singulier, www.festivalmauvaisgenre.com. Ou sur le MySpace aussi, myspace.com/festivalmauvaisgenre tout attaché au singulier. Donc là, vous aurez la bande-annonce effectivement du festival et surtout les bandes-annonces de la plupart des longs-métrages que l'on vous passera pour déjà que vous ayez une idée, éventuellement pour vous allécher, vous appâter, parce que c'est le but.
Quelque chose que tu souhaiterais rajouter, peut-être, ou quelque chose de plus personnel, le dernier film qui t'a marqué, même si toi, j'allais dire quelques mois d'avance par rapport à ce qui sort en salle, le truc qui t'a vraiment scotché et qui n'est pas programmé dans un mauvais genre.
Bah, deux, j'en ai déjà parlé, vraiment ce qui m'a scotché, bon, qui est sorti il y a un mois et demi, c'était Morse. Vraiment, là, c'était vraiment une des révélations de cette année. Et puis un film coréen que j'avais pu voir à Cannes l'année dernière et qui est sorti, je crois, il y a une semaine, 2 semaines à peu près. C'est The Chaser. Polar coréen, etc. Vraiment, que je conseille vivement. Pour tous ceux qui ont aimé l'ambiance un petit peu sordide, un peu à la Old Boy, courez aller voir The Chaser, qui raconte l'histoire d'un proxénète. Donc, d'une de ses filles se fait kidnapper par un serial killer. Et évidemment, il va y avoir le jeu du chat à la souris, quoi, course-poursuite, etc. Et c'est absolument,
sidérant parce que de noirceur, jeune réalisateur, quoi, le mec a à peine 35 ans, c'est son premier long, et franchement épaté non seulement par la maîtrise technique et le côté toujours un petit peu pince sans rire du cinéma coréen, avec évidemment une façon de filmer la ville, de filmer les endroits, que ça nous ressorte en plein dans la figure, absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme film? Alors, si le dernier en fait, Zach et Miri font un porno, donc c'est le dernier Kevin Smith, l'auteur de Clerks, Jay Silent Bob et compagnie, qui pour l'instant malheureusement n'est pas annoncé en salle, mais déjà disponible en zone 1, en tout cas aux États-Unis, qui devrait sortir en DVD chez nous. Donc là c'est pareil, le dernier film très intéressant, parce que c'est Kevin Smith qui arrête un petit peu de faire son geek, on va dire de base, même si moi j'aime bien, etc., mais qui fait plus vraiment un film un peu intimiste sur justement deux locataires qui ont une liaison platonique entre eux, qui n'arrivent pas à s'avouer, c'est tout bête, tout con, qui n'arrivent pas à s'aimer, etc., et qui en ont marre de leurs problèmes de thunes, qui vont décider de faire un porno avec des amis qui recrutent pour l'occasion. Et finalement, évidemment, leur amour va se révéler au grand cœur dans une ambiance évidemment complètement borderline, parce qu'on retrouve notamment Tracy Lord, donc qui se parodie elle-même, enfin bon. Donc Zach et Miri font un porno, guettez cette sortie, j'espère en tout cas que ça ne devrait pas tarder. Et puis, si un des derniers films, c'était le dernier, Gus Van Sant aussi, Harvey Milk, parce que Sean Penn, l'Oscar, mais sérieux, on s'en fout, je dirais vraiment sidérant, et qu'à aucun moment on ne sent la performance, en tout cas moi je ne l'ai pas senti comme ça, qui raconte en fait les derniers jours, plutôt l'ascension du premier homme politique américain ouvertement homosexuel, qui se déclarait tel quel dans les années 70 dans le quartier de San Francisco, le Castro. Et comment il va se retrouver assassiné parce que à force de vouloir justement rétablir plutôt annuler des lois on va dire homophobes, il va se retrouver assassiné. Donc ça c'était un très grand Gus Van Sant. Honnêtement, Gus Van Sant, j'aimais pas trop ses derniers films, c'est-à-dire personnellement Paranoid Park, Last Days, quand il se barrait dans des expérimentations un petit peu fumeuses, me faisait chier carrément. Il est arrivé un cinéma beaucoup plus classique avec une reconstitution, il mélange images d'archives et une reconstitution juste de l'Amérique des années 70, absolument bluffante. Tous les comédiens sont super, la bande son est géniale. Enfin, vraiment courez-y, quoi. C'est vraiment très. Et justement, c'est pas non plus, vous pourriez dire, ah ouais, mais Gus Van Sant, on sait, il le déclare, qu'il est ouvertement homosexuel, et on sent pas trop le côté militant. Il fait vraiment un film, je trouve, d'une justesse absolument incroyable, et ça fait du bien, en ce moment-là. Il y a aussi le dernier Miyazaki, qui effectivement n'est pas loupé, même si c'est pas forcément son meilleur, mais un Miyazaki, c'est toujours un Miyazaki, il y a des choses à piocher dedans, etc. Et puis, y aurait-il vraiment un film, là, qui n'est pas encore sorti? Alors, Humain. Voilà, on parlait de cinéma genre en France, Humain, avec Laurent Dutch et Sarah Forestier, n'allez pas voir, c'est une merde innommable. Pourtant il y a Dominique Pinon, mais ça ne fait rien, et puis surtout le grand Philippe Naon, mais ça ne fait rien, c'est super mauvais, c'est super raté, donc n'allez surtout pas voir ça. Et puis y aurait-il un film, non, Zach et Miri, c'est bon, je l'ai conseillé. Qu'est-ce que j'ai vu, tiens, récemment, ou du moins qui vont sortir, à voir, Sibylle, pour les amateurs de polar. Pour ceux qui aiment James Lee Burke, grand auteur de polar s'il en est, assez glauque, qui raconte avec son héros Dave Robichaud, ça se passe dans les Louisianes, lui ancien détective privé qui tient maintenant un magazine d'articles de pêche au bord d'un bayou et qui à l'occasion prête, aide la police à résoudre certains crimes assez crapuleux. Le prochain Bertrand Tavernier dans La Brume Électrique, avec Tommy Lee Jones, que je vous conseille, qui doit sortir, je crois, le 15 avril, donc en fait, juste après la fin du festival, qui est un très 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 joli polar par un de nos cinéastes, je trouve, Bertrand Tavernier, les plus intéressants. Voilà.
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
De rien, merci à toi Xavier. Longue vie à l'autre monde, longue vie à mauvais genre, et puis voilà, et puis courte vie à tous les pisse-froids.